Il est 13h30 à Paris, une heure de moins, en temps universel, l'actualité africaine sur RFI. Bonjour Simon Bourtembourg.
Bonjour Clotilde, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour une demi-heure avec le journal pour commencer et à la une, la pression diplomatique qui s'intensifie autour de Kigali. Pour la première fois, le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé au Rwanda de cesser de soutenir le M23 qui occupe une partie de l'Est congolais. De son côté, l'Union européenne a convoqué l'ambassadeur rwandais à Bruxelles et sur le continent, nous le verrons, les chefs d'état-major des armées de l'EAC se sont réunis en urgence hier à Nairobi. À la une également, le Gabon, où cela fait maintenant une semaine qu'ils ne travaillent plus. Les agents de l'État sont en colère. Ils étaient réunis hier au pied de la primature. Ils réclament notamment, nous le verrons, leur intégration dans la fonction publique et une revalorisation de leur salaire. Dans ce journal, la fête, malgré le deuil à Ouagadougou qui accueille le Fescapo, le festival du cinéma attristé par la récente disparition du réalisateur malien. Mais nous le verrons, les participants entendent faire honneur au 7e art africain. Et puis, le retour de Martin Bakolé sur le ring, le boxeur congolais affronte ce soir Joseph Parker à Riyad. Mais avant de développer ces titres, nous sommes à Paris où s'est ouvert ce matin le Salon international de l'agriculture. Là-bas, pas moins de 600 000 personnes sont attendues ces 9 prochains jours. Et cette année, l'événement met pour la première fois un pays étranger à l'honneur. Il s'agit du Maroc. Penaï Traoré, vous suivez pour nous le Salon de l'agriculture. Et Penaï, ce matin, le Premier ministre marocain et le président français ont donc inauguré ensemble cette édition 2025.
Exactement, Simon, c'est une nouvelle étape dans le réchauffement diplomatique entre les deux pays depuis l'année dernière. C'est vraiment une première et le Maroc a voulu faire les choses en grand avec une importante délégation amenée par le chef du gouvernement Aziz Arnouch. Il était accompagné ce matin par plusieurs ministres et des investisseurs et opérateurs du secteur agricole. On pouvait également observer un important dispositif autour de ces personnalités qui ont arpenté les allées du salon pour une visite des lieux, surtout l'important stand du Maroc avec son attraction musicale. Des coopératives et associations y proposent des produits du terroir du pays maghrébin, parmi lesquels les dattes, l'huile d'olive, l'argan et le safran. Certains exposants m'ont confié qu'ils étaient très fiers de cette vitrine offerte au Maroc et c'est une opportunité pour eux d'avoir de la visibilité sur les productions locales, surtout celles de petites coopératives. Mais tant du côté français que du côté marocain, l'un des sujets importants sera la question de la tomate marocaine, qui selon les agriculteurs français, leur fait de la concurrence déloyale, Simon.
Et d'autres pays africains sont aussi à Paris pour présenter leur savoir-faire.
Oui, la Côte d'Ivoire, qui ne manque quasiment jamais ce rendez-vous autour de l'agriculture, a bien garni son stand avec ses couleurs et son incontournable café cacao, mettant en avant sa fontaine à chocolat, animation phare qui attire les nombreux gourmands et les curieux. Le Cameroun est aussi présent pour proposer également son cacao, son poivre de Penja. On peut aussi compter parmi les pays africains le Rwanda, l'Algérie et le Sénégal. Pendant toute la durée du salon, hormis la présentation de leur production, ces délégations africaines organiseront et prendront part à des rencontres professionnelles, l'occasion pour elles de nouer de nouveaux partenariats.
Penaï Traoré en direct du Salon de l'agriculture à Paris. Merci à vous. À la une de l'actualité également, la crise dans l'Est de la RDC. Au menu d'une réunion des chefs d'état-major de l'EAC hier, la communauté des États d'Afrique de l'Est. Ils se sont donc rencontrés à Nairobi avec l'objectif d'évaluer la mise en œuvre de recommandations du sommet de Dar es Salaam entre l'EAC et la SADC. Dans leur conclusion qu'RFI a pu se procurer ce matin, les chefs d'armée d'Afrique de l'Est reconnaissent que non seulement les recommandations n'ont pas été appliquées, mais également que la situation s'est dégradée. RFI Nairobi, Gaël Lalex.
D'après la secrétaire générale de l'EAC, Véronica Ndouva, c'est en urgence que s'est organisée cette réunion. C'est que la situation humanitaire a radicalement changé depuis le sommet de Dar es Salaam, peut-on lire dans les conclusions de la rencontre. Le M23 a étendu ses opérations dans le sud Kivu. Les combats se poursuivent aux alentours de Kamanyola et progressent dans le Lubero, poursuit le texte. Face à cette dégradation, les chefs d'état-major font donc plusieurs recommandations, dont notamment la réouverture des routes par le M23, ainsi que des aéroports ou encore la mise en place place d'une équipe technique EAC-SADEC pour évaluer la situation humanitaire. Les chefs d'état-major demandent également que les Nations Unies modifient le mandat de la MONUSCO afin qu'elle aide à sécuriser les Nord et Sud Kivu. C'est pourtant à la demande de Kinshasa que la mission des Nations Unies avait quitté le Sud Kivu en juin. Enfin, les chefs d'état-major appellent à la création d'une force hybride EAC-SADEC Union africaine pour sécuriser les territoires sous occupation du M23. Une nouvelle réunion des deux organisations régionales est prévue lundi à Dar es Salaam. Gaël Alex Nairobi, RFI.
Sur le plan diplomatique encore, c'est une première cette fois. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé hier le Rwanda à retirer ses troupes de la RDC. L'instance condamne pour la première fois Kigali pour son soutien au M23. Une prise de position dont s'est félicité le représentant congolais à l'ONU, qui regrette tout de même cependant qu'elle n'intervienne qu'à la 4e réunion d'urgence du Conseil sur la RDC. Loubdanaki.
Rédigée par la France, la résolution a été adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Le texte condamne fermement l'offensive menée par les rebelles du M23 dans le Sud Kivu et le Nord Kivu avec le soutien des forces rwandaises et appelle Kigali à, je cite, « retirer immédiatement et sans condition préalable ses troupes du sol congolais et arrêter son soutien au M23 ». Dans le même temps, la résolution condamne le soutien apporté par l'armée congolaise à, je cite, « des groupes armés spécifiques, en particulier le FDLR ». Les membres du Conseil de sécurité appellent la RDC et le Rwanda à reprendre le dialogue pour une paix durable et mettent en garde contre toute attaque visant le personnel de l'ONU sur le terrain. Invité à participer à la réunion, le représentant du Rwanda a dit prendre note de la résolution tout en évoquant, je cite, « des pressions regrettables exercées sur les pays africains siégeant au Conseil ». De son côté, le représentant congolais s'est félicité de l'adoption de cette résolution tout en regrettant que le Conseil ait mis autant de temps à agir. La résolution votée ce vendredi ne prévoit pas pour le moment de sanctions. Loubnanaki, New York, RFI.
Et le chef de la diplomatie américaine s'est lui entretenu hier au téléphone avec le président kényan William Ruto. L'américain Marco Rubio a donc appelé à un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RDC, estimant qu'il n'y avait pas de solution militaire au conflit. Prise de position également de l'Union européenne, cette fois les 27 qui convoquent notamment l'ambassadeur rwandais à Bruxelles. Sur le terrain, alors qu'un calme précaire est observé ce matin dans le Loubero et à Kamagnola, plus au sud, dans la ville d'Uvira, de nouveaux pillages ont été rapportés cette nuit. Des pillages causés par des militaires de l'armée congolaise incontrôlés, des miliciens et des bandits échappés de prison, selon une source administrative. De leur côté, cette fois, les églises catholiques et protestantes poursuivent leur tournée de consultation pour organiser un dialogue de paix dans l'est de la RDC. Après Kinshasa, Goma, Kigali et un crochet par l'Europe, des représentants étaient hier donc à Lubumbashi, la deuxième ville de RDC. Reportage de Joseph Kaungo.
Pour participer aux assises du pacte social pour la paix, les membres de la société civile de la région du Katanga ont posé leurs conditions.
Il ne faut pas qu'on traite de l'intangibilité de nos frontières. Le pays est un et il reste indivisible. De deux, il faudrait que ceux de nos frères katangais qu'on a arrêtés pour des raisons politiques, qu'ils puissent être libérés avant cette réunion-là. Et de trois, il faudrait que ceux qui sont en exil aussi puissent revenir au pays. Et de quatre, il faut que ce dialogue soit inclusif, c'est-à-dire n'aborder pas seulement des questions politiques, mais aussi des questions de répartition des recettes.
La démarche de dialogue de la Sanko et de l'ECC, qui est critiquée ailleurs sur le fait de vouloir inclure même la rébellion AFC M23, est plutôt bien accueillie par les jeunes dans le sud-est de la RDC, regroupés dans la structure jeunesse pour l'unité katangaise.
L'histoire du pays nous renseigne que lorsque l'Église prend les commandes de ce genre d'initiative, nous trouvons toujours la possibilité d'avoir une sortie des crises.
Pour Mgr Donatien Cholet, secrétaire de la Sanko, cette démarche de dialogue est largement justifiée.
Les questions que les Congolais se retrouvent autour d'une table pour aplanir leurs divergences afin de trouver un consensus national, pas autour du partage de pouvoir, mais plutôt des réflexions qui amèneraient à un socle solide de la refondation de l'État.
Après Lubumbashi, les consultations pourront se poursuivre en Angola et au Congo-Brazzaville notamment. Joseph Kaungo, Lubumbashi, RFI.
En RDC toujours, Jean-Marc Kabound est libre depuis hier soir. L'opposant et ancien chef du parti présidentiel, a donc quitté la prison centrale de Makala à Kinshasa après plus de 2 ans et demi de détention. Il avait été condamné à 7 ans, notamment pour outrage au chef de l'État et propagation de faux bruits. D'après les informations de RFI, il n'a pas bénéficié d'une mesure de grâce présidentielle ni de libération conditionnelle. L'opposant a obtenu une liberté provisoire sur décision de la Cour de cassation devant laquelle il attend une révision de son procès. RFI, 13h40 à Libreville, au Gabon, où la colère des agents de l'État fait du bruit. Ils sont gardiens, chauffeurs ou agents de manœuvre, des hommes et des femmes qui n'ont pas le statut de fonctionnaire et qui demandent un meilleur salaire. 13 000 agents de l'État gabonais ont arrêté de travailler depuis lundi. Ils demandent leur intégration dans la fonction publique et pour ce faire, ils se sont retrouvés hier devant la primature. Un reportage de notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma.
Ils ont déserté leur poste de travail depuis lundi. Ils se retrouvent sous les fenêtres des bureaux du Premier ministre pour lui dire qu'ils n'en peuvent plus des salaires misérables et surtout de leurs emplois précaires.
Nous sommes des agents de l'État. Nous sommes en souffrance depuis des années. 20 ans de service, le salaire ne bouge pas. L'indice est toujours le même. Et nous disons non, nous sommes fatigués.
Nous sommes victimes d'une discrimination notoire de la part de toute l'administration gabonaise.
Parmi les grévistes, Madame Edzan. Elle travaille depuis 19 ans au ministère de l'Éducation nationale sous ce statut des plus précaires.
Comment concevoir qu'un agent de la main-d'œuvre non permanente, quand il va en retraite, il a 15 000 francs de pension par mois, trimestriel 45 000 francs.
Certains agents sont déjà proches de l'âge de la retraite. Présidente du collectif, Stella Bourobo-Moussavo fait des suggestions au gouvernement.
Ceux qui sont éligibles au recrutement intègrent la fonction publique. Et ceux qui n'ont plus l'âge, nous parlons de revalorisation des salaires. D'où nous parlons que 80 000 francs est impossible aujourd'hui pour qu'un Gabonais puisse vivre. Ce problème, c'est l'État qui l'a causé et c'est l'État qui doit résoudre ce problème.
Le gouvernement n'a pas encore communiqué sur ce dossier qui dure depuis plusieurs années. Yves-Laurent Goma. Libreville, RFI.
Dans RFI Midi, prenons à présent la direction de Ouagadougou où débute aujourd'hui le FESPACO, 29e édition cette année du grand festival de cinéma, un festival attristé évidemment par la récente disparition de Souleymane Cissé, lui qui devait présider le jury du long métrage cette année. Alors si un hommage sera rendu demain au réalisateur malien, c'est une semaine de fête à laquelle on s'attend du côté de la capitale burkinabé. Frédéric Gard.
Lève-toi et viens, FESPACO, c'est la fête du cinéma africain.
Quelles que soient les circonstances, le rendez-vous du cinéma africain de Ouagadougou a toujours eu des airs de fête et de renouveau. Abderrahman Sissako en sait quelque chose, lui qui fut président et lauréat du FESPACO.
Chaque édition devient une rencontre et bien évidemment aussi avec le sentiment de changement de génération. Des jeunes avec une très belle écriture, une diversité. Aujourd'hui, il y a le genre est très présent, il y a beaucoup de jeunes filles qui font des films, qui sont au FESPACO, qui sont dans toutes les sections. Donc la probabilité qu'une réalisatrice ait les talents devient de plus en plus évidente en fait.
Le FESPACO est aussi un espace de création et de liberté d'expression, comme en témoigne le réalisateur congolais Baloufou Bakoupa Kanyinda, créateur du prix Thomas Sankara.
En 1993, j'ai présenté un film sur Thomas Sankara. Et c'était un moment difficile d'avoir le courage alors que ceux qui l'avaient assassiné étaient au pouvoir. Mais ce film, on l'a vu au Burkina. Le Burkina a pris une tournure de conscience et de savoir sur lui-même. Il y a un grand poète de chez nous qui dit « Seul le savoir déchire les ténèbres ».
Des ténèbres qui, espèrent les participants, seront éclairées jusqu'au 1er mars par les écrans de cinéma du FESPACO.
Et cette année, l'invité d'honneur du FESPACO, c'est le Tchad. N'Djamena en compétition officielle avec Dia du réalisateur Achille Ronaïmou. Mais alors, s'agit-il de l'arbre qui cache la forêt? C'est en tout cas l'avis d'Issa Serge Sello. Il est réalisateur et producteur.
On est en sous-production. On ne produit pas assez. Et les films qui sont produits par les jeunes, ça n'a pas de niveau encore au niveau régional. Et c'est du bricolage. Ce qu'on veut, c'est une vraie politique d'accompagnement par un fonds de soutien, par la création d'une direction du cinéma, des formations. Il faut qu'on ait des cinéastes, pas seulement des réalisateurs, mais des techniciens qualifiés en montage, à la prise de son, à l'image, etc. Et donc, si on n'a pas ça, on peut pas produire plus que ça. C'est pour ça que je vous disais que c'est une balle de rebond, là. On va la saisir à Ouaga pour que les plus hautes autorités concèdent enfin à mettre quelque chose, une vraie politique, sur la table. Et cette année, on a le projet de mettre en place le code du cinéma tchadien avec l'assistance de l'UNESCO. Et ce code-là permettra de créer des démembrements au niveau du ministère de la Culture pour une direction du cinéma, pour un fonds de cinéma, etc., etc.
Issa Serge Cello au micro RFI de Frédéric Gara. Soirée de boxe ce samedi à Riyad en Arabie Saoudite avec un duel de poids lourd auquel va participer le Congolais Martin Bakole face au Néo-Zélandais Joseph Parker. Ce dernier devait initialement affronter le champion Daniel Dubois, mais le Britannique est tombé malade, alors c'est Bakole qui le remplace au pied levé. On a appris sa désignation jeudi soir, soit seulement 48 heures avant le combat. Victor Misistrano, le Congolais, remonte donc sur le ring un peu plus tôt que prévu.
Ce combat peut servir de réel tremplin dans son ascension vers les sommets. Martin Bakole s'est lui-même proposé comme recours, alors que le duel entre Joseph Parker et Daniel Dubois devait être le premier du Britannique depuis sa conquête du titre mondial chez les lourds en septembre dernier, lorsqu'il avait mis KO son compatriote Anthony Joshua. Martin Bakole ne fait pas office de simple remplaçant. À 31 ans, le boxeur vedette de RDC ne compte qu'une seule défaite en 22 combats et reste sur une série de 10 victoire de rang. Dernière en date, en août dernier, le natif de Kananga avait mis au tapis l'américain Jared Anderson pour lui infliger sa toute première défaite en carrière. Et si le géant congolais d'1m98 et 120 kilos ne s'est pas préparé spécifiquement à affronter l'expérimenté Joseph Parker, il sera malgré tout, selon son promoteur Ben Shalom, le favori de ce combat et selon Bakole lui-même, puisqu'il y a quelques semaines, quand un média lui a demandé son pronostic en cas d'affrontement contre le Néo Zélandais. Réponse, je gagnerai au point, voire peut-être par KO.
Un combat prévu à Riyad à partir de 22h temps universel.
Afrique Midi, Simon Bourtembourg.
Il est midi 47 en temps universel, la suite d'Afrique Midi avec vos chroniques du samedi. D'abord la une de Jeune Afrique où il sera question de l'industrie pornographique sur le continent avec François Soudan, directeur de la rédaction du magazine. À suivre également votre rendez-vous avec Jean-Baptiste Placa, notre éditorialiste maison consacre ce midi sa chronique à l'Union africaine qui a élu un nouveau président. Et puis un mot, une histoire, Lucie Bouteloup a reçu le chanteur et écrivain français Bertrand Belin. La une de Jeune Afrique de la semaine est un sujet que l'on aborde rarement, il faut le dire, l'industrie pornographique sur le continent. François Soudan, le directeur de la rédaction du magazine, est au micro de Catherine Potet.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
L'industrie pornographique en Afrique, ou ce que vous appelez l'enfer du décor. Il faut dire que les Africains qui travaillent dans l'industrie pornographique sont souvent tout simplement des victimes de cette industrie.
Oui, cette enquête, Catherine, nos collaborateurs Mathieu Olivier, Yves Plumet-Bobo l'ont menée au Cameroun, mais elle aurait tout aussi bien pu être réalisée en Côte d'Ivoire ou en République démocratique du Congo, dont les situations sont similaires. Au départ, il y a l'ambition, à la fin des années 2010, de l'une des sociétés les plus emblématiques du secteur du charme, de la pornographie en Europe, le groupe français Dorcel. Et cette ambition, elle est de conquérir le marché africain francophone et son bassin de consommateurs, mais aussi de satisfaire aux fantasmes exotiques de son public européen, en faisant tourner, au Cameroun par exemple, où s'est déroulée notre enquête, des centaines de vidéos par des réalisateurs locaux. Alors Dorcel fait appel à des casteurs issus pour la plupart du business de la nuit, à Douala, Yaoundé, lesquels sélectionnent des filles et des garçons majeurs de milieux souvent très modestes, volontaires pour gagner un peu d'argent. Et très vite, effectivement, on bascule dans l'enfer du décor que décrit cette enquête. Alors d'abord, ces acteurs amateurs sont systématiquement sous-payés, 3-4 fois moins en moyenne que leurs équivalents européens. Et les conditions d'hygiène lors des journées de tournage, qui sont extrêmement longues, sont très rarement respectées avec une multiplication des infections sexuellement transmissibles parmi les acteurs. Le souhait émis par certains d'entre eux, de voir leur visage flouté ou que les vidéos ne soient pas accessibles chez eux au Cameroun pour éviter l'opprobre familial et social est souvent totalement ignorée et toute protestation, toute plainte de leur part, Catherine, elle est impossible au risque de se retrouver eux-mêmes en prison puisque la pornographie est interdite et punissable par la loi. Les tournages se déroulent d'ailleurs dans une quasi-clandestinité, dans des lieux loués à la dernière minute et après que les téléphones des acteurs aient été confisqués. Tout cela est plutôt sordide, Catherine.
Un tableau particulièrement sombre, donc Jeune Afrique a demandé des explications à la société Dorcel. Que vous a-t-elle répondu ?
Alors elle plaide sa bonne foi, hein, puisque Dorcel TV Africa fait signer aux réalisateurs locaux des contrats les obligeant à respecter sa charte éthique avec les mêmes exigences qu'en Europe aux États-Unis. Le problème, c'est que les témoignages que nous avons recueillis au Cameroun démontrent que ce système reste très largement inopérant, Catherine.
Et l'une des actrices interrogées dans cette enquête parle d'exploitation dans un courrier qu'elle a adressé à la société Dorcel. Peut-on aller, François Soudan, jusqu'à dire que cette exploitation reproduit une sorte de domination sur les corps qui existaient à l'époque coloniale?
Mais sans doute, il y a eu en France, on l'a oublié, une intense production érotique pornographique coloniale. Il ne s'agissait pas à l'époque de vidéos, mais de catalogues de photographies suggestives comme autant de promesses d'aventures sexuelles sans conséquences pour les futurs colons. Mais aussi, vous vous en souvenez, de ces villages ethniques, des expositions coloniales où dénuder les femmes africaines était la norme, hein, sous prétexte de véracité ethnologique, mais surtout de divertissement pour les visiteurs. Avec toujours, oui, cette position de domination de l'homme blanc sur des corps racisés, interchangeables, sans nom propre, disposés en série. Alors oui, ces vidéos porno made in Africa, tournées pour le compte de groupes européens, ce sont un peu la continuation post-coloniale de ce genre de démarche, Catherine.
À François Soudan, au micro de Catherine Potet. Un point sur les principaux titres de l'actualité et ces nouvelles libérations d'otages israéliens par le Hamas. 3 otages ont déjà été libérés. Les États-Unis proposent à l'ONU une résolution pour une fin rapide du conflit en Ukraine. Un texte simple et historique, exhorte le président américain. Dans son discours d'adieu, Moussa Faki Mahamat, le président sortant de la Commission de l'Union africaine, s'est félicité de nombreux succès tout en déplorant quelques insuffisances, des lacunes et des difficultés. Alors que retiendront concrètement les Africains de ces 2 mandats et à quoi doivent-ils s'attendre avec son successeur ? La réponse tout de suite avec Jean-Baptiste Placa.
Pour être franc, les Africains n'en sont déjà plus à se préoccuper de ce qu'a éventuellement réussi ou n'a pas osé Moussa Faki Mahamat. Quant à son successeur, ils sauront avec ce qu'il leur reste de patience attendre de le voir à l'œuvre avant de porter un quelconque jugement. Cette indifférence de fait dénote un scepticisme, sinon une grande défiance des peuples du continent, dubitatif quant à l'utilité de cette organisation dans leur vie. Mais cette défiance vise davantage les chefs d'État que les présidents de commissions plus ou moins malléables qu'ils élisent. Comme si les déconvenus passés de quelques trop fortes personnalités dans ces fonctions avaient fini par inciter la plupart des titulaires à se complaire dans un excès de prudence, confinant parfois à l'inefficacité. Cela n'est certes pas un travers particulier à la seule Union africaine, mais en raison de l'importance des défis à relever, les conséquences ici sont d'une ampleur colossale. Cette fonction requiert du courage pour oser rappeler à leur devoir des chefs d'État plus souvent tentés d'utiliser cette tribune pour conforter leur pouvoir que pour défendre leur peuple. Elle implique de savoir à l'occasion tenir tête aux dirigeants qui prennent des libertés avec les textes qui régissent l'organisation. Lorsqu'un État membre de l'Union européenne viole les règles de l'Union, la Commission de Bruxelles sait le rappeler à l'ordre et même au besoin lui infliger les sanctions prévues par les textes.
Et Jean-Baptiste, certains premiers responsables de l'organisation qui ont osé tenir tête aux chefs d'État ont eu à le payer très cher.
Cela est certain, le Guinéen Boubacar Diallo Télé, le Camerounais Zoé Kangaki, le Togolais Edem Kodjo, autant d'expériences dont les dirigeants africains semblent avoir tiré comme une leçon de médiocrité, préférant des présidents de commissions dociles et obéissants à de trop fortes personnalités. C'est pourtant, à l'échelle continentale, l'une des fonctions qui requiert le plus de créativité, d'envergure et un leadership convaincant. car l'équation personnelle compte toujours pour beaucoup dans une telle fonction.
En l'occurrence, le président sortant de la commission dit avoir laissé aux dirigeants un document portant sur certaines questions relatives à la survie de l'organisation. N'est-ce pas là courageux ?
C'est ce qu'il semble suggérer lorsqu'il affirme qu'un chef d'État a qualifié son document de « brûlot ». Mais il s'est aussi enorgueilli d'avoir passé 17 ans au Conseil exécutif de l'Union, qu'il nomme « Club des ministres des Affaires étrangères », entre l'époque où il y siégeait comme chef de la diplomatie tchadienne et ses deux mandats de président de la Commission. Cette longévité ne lui aura manifestement pas permis d'anticiper et de surmonter les insuffisances, lacunes, difficultés et autres défis qu'il décrit par ailleurs. Pondre un brûlot alors que votre poste n'est plus en jeu, donc pas menacé, ce n'est ni du courage ni de la témérité. D'autres ont connu des difficultés pour avoir justement osé des actions qui valaient brûlot. Et il ne s'agit pas que de l'emblématique Boubacar Diallo Télé, sujet d'élite achevé de manière inhumaine dans les geôles du panafricaniste et néanmoins dictateur Ahmed Sékou Touré. L'Afrique qui s'acharne à achever ses propres héros doit-elle s'étonner d'en manquer dans des positions aussi importantes ? Les peuples du continent sont plus que mal à l'aise pour se plaindre du tort que leur font les autres lorsqu'ils réalisent que pour ne pas respecter les textes et les règles qu'elles se donnent, l'organisation panafricaine s'évertue à dissuader, sinon à casser les prétendants les plus courageux à tout leadership continental.
Jean-Baptiste Placa, à réécouter et à lire quand vous le voulez sur notre site et notre application. Chanteur, poète, écrivain, traducteur ou philosophe, mais aussi tous amoureux de la langue française, il parle au micro de Lucie Bouteloup d'un mot qui leur est cher et de ce qui leur évoque.
Que la mémoire, ce serait comme un continent gelé, si vous voulez. Et parfois, selon certaines météos du présent, eh bien, ça fait fondre des blocs. Et ces blocs dérivent comme des icebergs pour venir contaminer ou venir se manifester dans les eaux du présent.
Quand on pense à lui, souvent la première chose qui nous vient en tête, c'est sa voix. Singulière et magnétique. On pense aussi à sa musique et aux textes de ses chansons, dans lesquels se mêlent la poésie et un certain sens de l'absurde. Une écriture décalée qui est en quelque sorte sa marque de fabrique et qu'on retrouve dans ses livres puisque Bertrand Belin est aussi auteur. D'ailleurs, il vient de publier La Figure aux éditions POL, c'est son 5e roman. Et pour cet épisode, il a choisi de nous parler d'un mot pour ne pas oublier.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Moi, je voudrais vous parler du mot mémoire. C'est mon dada ces temps-ci. Je m'interroge sur la mémoire. 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 Voilà pourquoi. Et aussi parce que la mémoire, supposément, est un lieu mental dans lequel se trouveraient des souvenirs et lieu mental qui permettrait au sujet en question de se souvenir. La mémoire. Donc c'est quelque part dans le cerveau. Alors on dit qu'il y a une mémoire peut-être ailleurs dans le corps, hein, mais c'est probable. Mais la mémoire, moi je vois le cerveau, je vois des activités invisibles, même au microscope, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est de l'électricité, c'est des neurones, des synapses qui communiquent entre eux en envoyant des petites doses d'électricité qui sont codifiées, comme dans un ordinateur, qui ferait des choix très très rapidement pour savoir ce qu'il faut garder ou pas garder. La mémoire, donc je pense à une éponge, le cerveau, tel dans la dimension viscérale du cerveau. On envoie les M de mémoire font un petit peu comme les canyons et les circonvolutions du cerveau lui-même, tel qu'on le voit dans la représentation anatomique. Et c'est tout ça, quoi.
Écrire des livres, pour vous, c'est un moyen de garder en mémoire ?
C'est à la fois un moyen de garder en mémoire, c'est un moyen aussi, peut-être c'est une chimère, c'est un vœu bien chimérique, mais de déposer de la mémoire dans un département extérieur qui se trouve être un livre. Mais cependant, on en fait seulement une copie, hein, vous voyez, comme pour reprendre le vocabulaire de l'informatique. Noter un souvenir, c'est en faire une copie. Et une copie, peut-être pas toujours tout à fait exacte, qui subit le biotope, l'environnement dans lequel ce souvenir, cette mémoire est réactivée, quoi. Donc c'est vivant aussi, la mémoire. La mémoire est vivante, la mémoire est capable, le souvenir est capable aussi.
Selon le dictionnaire Larousse en ligne, la mémoire est une activité biologique et psychique qui permet d'emmagasiner, de conserver et de restituer des informations. En informatique, c'est également un dispositif capable d'emmagasiner, de conserver et de restituer des données.
C'était un mot, une histoire.
Avec Bertrand Belin, au micro donc de Lucie Bouteloup. C'est ainsi que se referme cette édition d'Afrique Midi, réalisée par Michael Goncalves. Karine Franck était à la rédaction en chef avec Thomas Yayani. À suivre le journal international en français, sauf en Afrique de l'Ouest, où vous attendent 30 minutes d'information en full day. Et en Afrique lusophone, où vous avez cette fois rendez-vous avec une demi-heure d'information en portugais.
BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Cette semaine, les artistes sont à l'honneur, qu'elles soient soudanaises, danoises, guinéennes ou guadeloupéennes, qu'elles s'illustrent dans l'électropop, la folk, le rap ou le dancehall, elles vont nous faire part en chanson de leurs préoccupations. Êtes-vous prêts seulement ?
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol. Tous les dimanches à 14h10 TU sur RFI.
BPM.